franceinter.fr.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Jacques Pilan, le sorcier de l'Élysée. La réélection de Mitterrand en 1988, la victoire de Chirac en 1995. Jacques Pilan fut un accoucheur de destin présidentiel. On le présentait comme un conseiller en communication. En fait, le métier qu'il a exercé n'existe pas. Dans le langage d'autrefois, on dirait « il conseillait le prince ». Dans celui d'aujourd'hui, on dirait « il scénarisait les campagnes électorales, il les mettait en scène pour la télévision ». C'était un personnage de première importance. En même temps, il tenait à rester dans l'ombre. Après sa mort, précoce et discrète, en 1998, il entendait bien ne pas laisser de traces visibles. On ne connaît qu'une interview, publiée par la revue Le Débat, du sorcier de l'Élysée. C'est le titre que François Bazin, bonjour.
Bonjour.
Vous avez donné au livre que vous lui avez consacré, que Perrin réédite en format de poche, dans la collection Tempus, pendant qu'à Pessac, dans la Gironde, commence le festival du film d'histoire dédié cette année à un sujet qui donnait fin à Jacques Pilan, j'ai dit la conquête du pouvoir. Alors avant de parler de la conquête du pouvoir, on va laisser dans l'ombre peut-être la jeunesse, peut-être donner un conseil aux auditeurs plutôt que Sciences Po, une bonne préparation à la stratégie politique, c'est la pratique de la transgression quand on est adolescent et jeune homme.
Jacques Pilan a eu son bac à 15 ans, c'est-à-dire qu'il commençait mal pour la transgression, mais après il n'a rien foutu de sa vie finalement pendant près de 15 ans, 15-20 ans, jusqu'au moment où il rencontre François Mitterrand en 80. Son plaisir, c'est de changer d'année universitaire chaque fois. Il a fait un peu d'histoire, un peu de droit, un peu de tout, beaucoup autour des tables de poker et surtout dans une lecture attentive des œuvres de Debord et de tant d'autres.
Qui disait « nous sommes entrés dans une société du spectacle ».
Voilà, et que le spectacle, c'était l'idéologie par excellence. C'est à partir de ça que Jacques Pilan a travaillé. C'est toujours très compliqué de comprendre comment un homme qui flâne, finalement, qui se promène, qui ne fait pas grand-chose, des petits boulots, qui vit de pas grand-chose, finalement, du salaire de sa femme, à un moment... Se dit que la conquête du pouvoir, le conseil au président est finalement le destin de sa vie.
C'est qu'il faut peut-être pour cela, après les petits boulots, après les petits contrats, à la fin des années 1970, trouver un tremplin. Apostrophe.
J'ai donc intitulé le 215e numéro d'apostrophe « Les publicitaires sont-ils des diables ?» Jacques Séguéla, cofondateur et directeur de la création de l'agence Roux, Séguéla, Kézac et Goudard. Et vous êtes l'auteur d'un livre qui porte le plus long titre de l'année et aussi l'un des plus drôles. Ne dites pas à ma mère que je suis dans la publicité, elle me croit pianiste dans un bordel, aux éditions Flammarion. Allez, vous prévenez tout de suite votre lecteur, vous dites voici le livre d'un vaniteux en mal d'amour.
Oui, les publicitaires sont vaniteux, puisque c'est un métier d'optimisme par définition. Je ne parle que de bonheur. Alors ça rend vaniteux de parler du bonheur des autres. Et en mal d'amour parce qu'à force de toujours dire du bien des produits qui nous payent pour cela, le publicitaire finit par avoir terriblement envie qu'on dise enfin du bien de lui.
Ah oui, alors vous avez dit, donc pour qu'on dise du bien de moi, moi j'écris un livre.
Exactement, vous savez, la publicité comme la charité, la meilleure commence par soi-même.
Alors notre héros d'aujourd'hui, Pilan, embauché par Séguéla qu'on vient d'entendre, ne se considère pas lui comme un publicitaire.
Ah non, son ambition est bien plus grande. C'est pas de faire des affiches, c'est pas de faire une campagne. C'est de gérer dans la durée ce que doit être l'image du prince, du président. Il se conçoit comme un stratège. C'est un stratège en image. Le problème pour lui n'est pas d'être là pour faire des affiches au moment T de la présidentielle, mais dans la durée du mandat, de construire comme un couturier qui bâtit son modèle, qui le travaille pour que le jour J, le pli soit impeccable. Donc l'ambition de Pilan est beaucoup plus forte. Il n'avait pas de mépris, pas du tout pour Séguéla. D'abord parce que Séguéla lui avait mis mis le pied à l'étrier. Et en plus, il pensait que ce que savait faire Séguéla, c'est-à-dire de la publicité, il le faisait bien. Mais que pour être un vrai conseiller en communication, pour être un vrai stratège, il fallait avoir une ambition beaucoup plus forte que celle de souffler à l'oreille du prince pendant quelques mois d'une campagne.
C'est par Séguéla qu'il connaît François Mitterrand, qu'il participe encore au second plan à la campagne de 1981, à l'époque de la Force Tranquille. Le président de la Force Tranquille, c'était un flâneur, lui aussi, un promeneur. Souvenez-vous du film de Robert Guédiguian qui s'appelait « Le promeneur du champ de Mars ». Un proche du président, moins proche et moins riche que Jacques Pilan, se rend chez un libraire d'anciens.
Vous pourriez me conseiller, je dois faire un cadeau.
Et quel genre de cadeau?
C'est pour l'anniversaire du président. Je crois savoir que vous avez des livres qui l'intéressent.
Et ça fait bien un an que je ne l'ai pas vu, et lui c'est un vrai connaisseur. D'ailleurs, il me doit toujours un château brillant. Tenez, regardez cette merveille. Don Quichotte, édition de 1696 à Amsterdam.
Je peux vous garantir que ça lui plaira.
Combien?
145 000 francs les 5 tomes.
Vous avez vu ce maroquin rouge? C'est du velours.
Je suis désolé, mais je cherche quelque chose de plus modeste.
Alors ce libraire, ça pourrait être Benoît Hiver, qui depuis est devenu directeur des éditions Perrin, lesquelles rééditent votre Sorcier de l'Élysée, et qui parle ici de son ami Pilan, Amérine Moneghetti.
Il y a quelqu'un qui prenait le temps de choisir les mots avec lesquels il vous parlait. Donc il avait une diction très nette, lente. C'est le paradoxe d'un homme de communication qui a finalement fait régner le silence en maître et qui avait compris que l'essentiel dans un monde où tout le monde parle est de savoir se taire, parce que quand on parle, à ce moment-là, on vous écoute beaucoup plus. Le secret était sa marque de fabrique et le travail qu'il accomplissait auprès des présidents ou d'un certain nombre d'hommes politiques nécessitait par essence la plus grande confidentialité. Et il n'aimait pas qu'on l'interroge d'ailleurs sur ses activités. Ça me fait penser à la phrase célèbre de Malraux, « Je ne m'intéresse pas ». L'humilité va toujours de pair avec la grande supériorité d'esprit. Ce sont des gens qui boxent dans une catégorie en dessous, qui s'intéressent beaucoup à eux-mêmes.
Bah, Mitterrand aimait bien les courtisans discrets qui ne se mettaient pas trop en avant.
Pas toujours. Mais en tout cas, Jacques Pilan, en effet, détestait ça. Être vu, le jour où il est apparu sur une photo, c'était au détour d'une émission, c'était en Libération, on l'apercevait à un coin d'écran, c'était à la fin des années 80, il en a été malade. On est foutu, ça y est, on est vu. Être vu pour lui, c'était la fin de l'efficacité. L'ombre, c'était un peu un plaisir pour lui, mais c'était surtout un gage d'efficacité. Et quand on le diffusait de l'information sur ce que faisait Mitterrand, sur les gens qui étaient censés le conseiller, alors que c'était Jacques Pilan qui le faisait, il adorait ça. C'était pas quelqu'un qui demandait des droits d'auteur pour ça. Il demandait des rétributions, bien évidemment. Mais le droit d'auteur, la présence dans la presse, il détestait ça.
1984, il va devenir très proche du président de la République. Alors il faut imaginer un président de la République au creux de l'impopularité, parce qu'il a mis en place une politique de rigueur. Ses bases politiques s'effritent, il évolue dans un terrain miné. Alors qu'est-ce qu'un stratège, puisque vous parlez de stratège, peut conseiller à celui qui est dans un terrain miné?
Ben ça commence, ça va répondre à votre question, dans un avion du GLAM, de retour de Latch, où il y a dans l'avion Mitterrand, Pilan et Séguéla. Et Séguéla explique à Mitterrand qu'il faut retrouver la jeunesse, qu'il faut virer Mauroy, etc. Et Mitterrand est plongé dans Zola et ne lève pas la tête. Puis à un moment, se tourne vers Jacques Pilan et lui dit « Croyez-vous que je puisse m'en sortir ?» Pilan répond « Oui ». Et puis Mitterrand se replonge dans son livre et dit « Alors passez à me voir demain à mon bureau ». Et Séguéla rentre, lui, à son bureau en disant « Ce salaud de Mitterrand vient nous piquer Pilan ». Ça se commence comme ça, c'est-à-dire une question « Comment je vais m'en sortir ?» Et la réponse de Jacques Pilan, c'est « Recréer un autre personnage ». Recréons un nouveau Mitterrand. Et la fin de cette séquence, de cette histoire, c'est le Mitterrand de 88, c'est Dieu. Ouais. C'est la création d'un monarque à la fois débonnaire, mais en même temps surpuissant, qui est la marque de Pilan.
Alors le début de cette séquence, parce que les séquences à l'époque sont beaucoup plus longues qu'aujourd'hui, c'est 84, 85, la création pour renouveler le personnage et la parole du président d'un événement de télévision. Souvenez-vous, on est en direct avec les risques du direct. C'est le 28 avril 1985.
Bonsoir, Monsieur le Président de la République. Merci d'avoir accepté l'invitation de TF1 pour cette édition spéciale. On en a beaucoup parlé dans la presse, on a beaucoup dit tout et le contraire de tout. Je vous ai proposé un premier décor. Il y en aura trois possibles à votre choix pendant cette émission. Ce décor, vous le connaissez bien, c'est un bureau de Paulin. Il est à l'Élysée, normalement.
Celui-là, c'est moi qui l'ai commandé. D'ailleurs, celui-là aussi. Et vous m'avez mis dans l'embarras, lequel choisir? Bon, celui-ci est au centre.
C'est symbolique, cette image, celui-ci est au centre?
Ne cherchez pas midi à 14h.
Bien. La presse s'est fait écho de certainement une question que j'allais vous poser, pour savoir si, dès le début de cette émission, vous êtes un président chébran. Vous savez ce que c'est que chébran?
Vous savez, moi, quand j'étais enfant, déjà, on inversait l'ordre des syllabes dans le mot, hein. C'est pas très nouveau, ça. Mais c'est déjà un peu dépassé, hein. Vous auriez dû dire câblé.
J'aurais dû dire câblé, très bien. Le Smurf?
Le Smurf, ben, écoutez, je suis pas omniscient. Simplement, je regarde.
Non, mais vous êtes un homme de mots.
Je regarde la télévision. Je vois bien que Michael Johnson dansait admirablement. Je trouve que c'est une forme d'expression artistique, de la danse rythmique, très remarquable.
Et les expressions nouvelles, vous les connaissez? C'est l'angoisse.
C'est l'angoisse, ça se comprend vite.
C'est craignos.
Ça se comprend moins bien. Là, je ne sais pas très bien la signification. Ça veut dire peur ou ça veut dire c'est moche quoi, je ne sais pas.
C'est pas terrible. Et c'est l'enfer?
Oui, l'enfer, c'est rarement désirable. Quoi,
c'est l'enfer, la vie de président?
Non, non, non.
Attendez, on rit là quand même, François Bazin, Morousi, qui dit au président de la République « Merci d'avoir répondu à notre invitation ». Mais tout était combiné, organisé, notamment par Jacques Pilan.
Oui et non. Oui, parce que pour Pilan, pour marquer une nouvelle étape dans la carrière de Mitterrand, il fallait une grande émission de télévision. Le réel, c'est la télé pour lui. On est au règne du télécentrisme. Une émission, c'est un spectacle. Ce n'est pas destiné à montrer un président qui répond à des questions. C'est montrer l'image d'un président qui répond non pas, j'allais dire, à un journaliste, si Morousi en était, hein, mais plus un animateur pour créer un spectacle global. Et cette émission est une coupure totale dans l'histoire de la communication politique à la télévision parce qu'elle innove de façon considérable. Tout ça avait été précédé par un nombre d'études très important qui montrait ce qu'avait fait Pilan, que quand on interrogeait les gens sur ce qui avait été important pour eux dans les mois précédents, ils répondaient toujours par des images qu'ils avaient vues à la télévision et notamment au journal de 20 heures. Donc l'émission est conçue comme une série de spots télévisés, de fiction ou réel, auxquels Mitterrand réagit, mais quand il réagit à ces spots interrogés par un homme de télévision comme Morousi, en fait, il parle vraiment au spectateur qui a ces images dans la tête. C'est cette conception de l'émission qui est un spectacle global dans lequel tout est organisé autour du président de la République. Il y a un animateur et c'est un show.
Mais l'animateur, il est quand même lui-même. Il a fallu du temps avant de choisir Morousi. On avait imaginé d'autres possibilités.
Tout a été, y compris Dorothée. Donc,
Dorothée avait dit combien?
Oui, il avait dit combien.
Ça m'intéresse, mais combien?
Voilà. Mais c'était tout sauf Alain Duhamel, au fond. Tout sauf un journaliste politique spécialisé.
Mais Morousi, il fonctionne par association d'idées.
Oui.
C'est-à-dire qu'il emmène Mitterrand comme dans une sorte de rêve éveillé qui est le sien. Il est lui-même,
tout
Morousi.
À fait. Ah, mais pour Jacques Pilan, on ne dictait pas les questions aux journalistes, mais on le choisissait. On ne le choisissait pas pour rien. Il avait, quand il concevait une émission, il disait qui on a en magasin pour les journalistes. Vous voyez un peu Donc, si c'était une émission très politique, très pointue, on cherchait quelqu'un qui était un journaliste politique classique. Si on voulait organiser un show, on prenait Morousi. Si on voulait de l'animation globale, on prenait Guillaume Durand. C'est comme ça que ça fonctionnait. Mais on demandait aux journalistes de rester eux-mêmes.
Voilà. Et ce qui permet au président d'être lui-même, c'est-à-dire un vieux sage.
Exactement, mais la question n'est pas, pour Pilan n'est pas de fabriquer quelque chose qui soit artificiel, mais de permettre à son client, comme il disait, d'exprimer au bon moment une facette de sa personnalité qui soit la plus forte possible. Et c'était ça qu'il bâtissait, notamment avec Morousi.
D'un président usé, on fait un président qui a du poil aux pattes et qui est fort.
Président expérimenté, un sage. Mmh. D'ailleurs, c'est le ressort de la campagne déjà de 80. De la force tranquille. Le Pilan passait son temps à transformer l'âge en expérience.
Mais il y a des hommes d'expérience, mais qui sont d'abord des hommes de parti, et qui sont sérieux, qui apprécient peu.
La télévision ne peut vendre sa pub et son espace qu'à la condition de présenter de l'émotion, avec cette caractéristique, c'est que la télévision est incapable de parler de l'avenir. Et donc, le temps disparaît. Or, nous, politiques, qui sommes chargés de préparer le long terme, qui prenons que des décisions à effet lent, bien entendu. Même quand il s'agit de construire un bâtiment ou de redonner, d'arracher le Louvre aux finances pour le redonner aux Beaux-Arts. C'est ça la politique. Donc il nous faut collecter l'accord de gens sur des intentions. Mais une intention, ça ne rentre pas dans ce que la télévision peut montrer parce qu'il faut qu'elle montre de l'affectif du drame. L'image, elle est tellement englobante que d'abord on pense à rien d'autre quand on la voit. Elle est tellement prégnante qu'elle occupe tout l'espace mental. Et donc, elle fait travailler des neurones qui ne sont pas ceux de l'intelligence, qui sont ceux de l'affectif, de l'émotion.
Ce n'est pas une réaction spécifique de Michel Rocard à l'émission « Ça nous intéresse ». C'est son point de vue constant qu'il exprime sans cesse. Il déteste la défaite de la pensée politique dont la cause serait la télévision qui impose le primat du geste sur le programme.
Il a raison sur un point, c'est que aujourd'hui, l'information... C'est la télévision, c'est encore aujourd'hui. Et presque dans la télévision, c'est le journal de 20 heures. C'est par là que passe l'essentiel des messages politiques. Alors sur ce point, il a raison. Là où, à mon avis, son analyse est un peu frustre, mais je renvoie pour ça aux analyses de Jacques Pilant, qui était un élève de l'école de Palo Alto, qui pensait que dans la télévision, on ne pouvait pas séparer la parole et le geste, l'apparence et ce qui était dit, que tout ça formait un ensemble global, et ce que l'on dit... Si ça vient en contradiction avec ce que l'on montre, le message ne passe pas. Le message est global à la télévision. Alors, on peut le refuser, mais à ce moment-là, il ne faut pas aller à la télévision.
Il n'y a pas comme... que les pubs à la télévision, ni non plus que le journal télévisé. Il y a les séries télévisées. Et dans les séries télévisées, les personnages qui l'emportent, ce sont les personnages qui sont constants dans la durée.
Oui. Ben c'est pour ça que pour Jacques Pilant, la communication politique, ça ne résumait pas la publicité de campagne. Il fallait construire un personnage dans la durée. Il est l'inventeur du plan média, j'allais dire. Mais, c'est-à-dire comment on construit méthodiquement, systématiquement, à travers des événements qui sont divers, des images qui sont variées, l'image d'un président ou d'un homme politique qui, elle, soit très déterminée et très fixe.
Une candidature, ça se prépare longtemps à l'avance. Est-ce que Michel Rocard n'a pas envisagé de demander les services de Jacques Pilant?
Il a travaillé pendant plus de 2 ans avec Jacques Pilant et c'est Jacques Pilant qui l'a licencié. C'est-à-dire qu'un jour, il lui a envoyé une lettre en lui disant qu'il ne voulait plus travailler pour lui. C'est le seul exemple que je connaisse d'un conseiller qui licencie son client.
D'un sorcier qui puisse barrer la route de l'Élysée peut-être à un candidat. Alors il a licencié Michel Rocard, il aimait bien Gaston Defferre parce que c'était un bandit, disait-il. Et Bernard Tapie, qui l'a fait boxer.
Qui était un autre bandit.
Jean-Marie Le Pen. C'est que il aimait les joueurs. Les joueurs, il a été formé, vous le disiez, au poker.
Chaque joueur reçoit d'abord 2 cartes face cachée. Au premier tour, le joueur peut soit suivre, soit relancer, soit se coucher. Le croupier dispose ensuite 3 cartes au centre de la table, c'est ce qu'on appelle the flop. À ce moment précis, les joueurs sont libres de checker ou d'enchérir.
On prend les cartes, on brasse les cartes, on coupe les cartes, on donne les cartes. Ah, c'est merveilleux, on va jouer au poker. On reprend ses cartes, on regarde ses cartes, on s'écrit cartes, puis on écarte. J'en jette 3 car j'ai déjà une paire. Quand tout le monde a son jeu, on se regarde en chien de faïence. On essaie de lire dans les yeux du voisin plein de méfiance. J'ai pris 3 cartes et lui 2 cartes, vous combien de cartes? Moi juste 1 carte. Ah ah, faut se méfier, il y a du bluff dans l'air.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Et aujourd'hui, Jacques Pilant, avec François Bazin. Jacques Pilant, joueur de poker, conseiller, stratège de différents présidents de la République au poker. Il a commencé au poker, on l'a dit et redit, on peut gagner beaucoup d'argent, ainsi que le confessait Aznavour. Il aimait bien le luxe et l'argent, Pilant.
Il adorait ça. Il n'en a pas toujours eu. Il a été joueur de poker quasiment professionnel quand il était jeune. Il avait toujours un tic qui était assez intéressant, c'est quand il regardait un dossier, il le soulevait comme les joueurs de poker regardent leurs cartes, il retournait le coin, c'était un vieux réflexe. Mais l'argent, oui, cet homme avait le goût du luxe, au fond. Le luxe pour lui suprême, c'était le conseiller, le président de la République, les présidents de la République. Et pour le reste, oui, il vivait à la fin de sa vie sur un train extrêmement élevé. Mais c'était pas un rentier, hein, c'était quelqu'un qui dépensait, qui offrait, qui invitait à tour de bras. Il dépensait son argent très, très, très largement.
De son antre du cours Albert Ier, que vous décrivez dans votre livre Le Sorcier de l'Élysée, François Bazin, comme
une sorte d'atelier d'alchimiste. Il y avait des,
oui, c'était
des
un...
alambics, des éprouvettes.
Presque, presque. Il avait devant lui, c'était un grand bureau à moitié vide, dans lequel il y avait des paperboards sur les murs, où il y avait des dessins, des choses cabalistiques. Et il attendait que ça tombe, il appelle ça les peaux mortes. Et quand c'était mûr, ça tombait. Et puis il avait un grand, grand écran, une série d'écrans de télévision sur un mur, où on voyait ce qui se passait en sous-sol, c'est-à-dire des groupes qualitatifs de Français qui passaient. Et lui, il regardait ça en zappant. Et il faisait de ça son miel. Oui, il y avait une alchimie pilanesque, j'allais dire, qui... C'était précisément à ce qu'il disait, c'est, le plus dur, c'est faire de simple. Et donc, il travaille toujours en réduction.
Mais dans les alambics, les enquêtes d'opinion, bon, 1988, on ne va pas s'éterniser sur cette campagne, elle était un peu gagnée d'avance, dites-vous. Oh. Non, mais il y avait eu une tontonisation,
oui,
de François Mitterrand dès « ça m'intéresse », et il était sur une pente ascendante en dépit des élections législatives de 86, perdues d'ailleurs de peu. Non, mais deuxième coup de poker, deuxième grande partie, 1992. Il a choisi le président de la République, le pari européen. Mais les enquêtes d'opinion, au moment où il imagine un référendum sur le traité de Maastricht, donnent des résultats inquiétants.
Oui, parce qu'il était parti pour... il avait poussé, encouragé Mitterrand à faire ce référendum. Il pensait que le oui gagnerait. Puis tout, quand même, ils ont fait des enquêtes. Et ils se sont aperçus que chaque fois qu'on interrogeait sur les gens sur ce qu'était l'Europe, les gens disaient qu'ils étaient pour. Mais quand on les interrogeait sur ce qui allait arriver avec l'Europe pour eux, ils expliquaient que ça allait les faire souffrir, que c'était des menaces pour l'emploi, que pour leur niveau de vie, ce n'était pas une bonne chose. Donc il s'est posé la question à ce moment-là, en disant mais qu'est-ce qui se passe ? Ils ont poursuivi les enquêtes et c'est à ce moment-là qu'ils se sont aperçus qu'il y avait ce qu'on a appelé après la France d'en haut, la France d'en bas, et que ce clivage-là était en train de se substituer de façon très très considérable au clivage gauche-droite.
Donc les riches ne veulent pas la même chose que les pauvres.
Certes, et puis surtout les pauvres sont plus nombreux. Et que quand on fait un référendum, quand cette mécanique-là se met en œuvre, ça devient extrêmement dangereux. Qu'il y ait France d'en haut, France d'en bas, ce n'est pas une nouveauté, mais que ce clivage soit dans la tête des gens aussi fort et qu'il structure autant leur comportement politique, quand on les interroge directement par oui, par non, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on marche dans un champ de mine.
Alors, ils hésitent, Pilan et Mitterrand, et puis ils continuent, dites-vous, sur la voie du référendum. Et encore un show télévisuel présidentiel dans la ligne de « ça m'intéresse » de 84. Nous sommes maintenant le 3 septembre 92. La partition des interlocuteurs est un peu écrite d'avance, y compris celle de Philippe Séguin, opposant à François Mitterrand. Nous sommes sous la houlette de Guillaume Durand dans le grand amphi de la Sorbonne pour TF1.
C'est le général de Gaulle qui disait « la démocratie est inséparable de la souveraineté nationale ». Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Il voulait dire que la démocratie, entre autres choses, c'est l'acceptation par une minorité de la loi de la majorité. Et ça n'est pas rien pour une minorité d'accepter la loi de la majorité. Vous avez connu cette situation, Monsieur le Président, je la connais en ce moment.
Chacun son tour.
Chacun son tour. Merci de m'ouvrir des perspectives radieuses.
C'est la loi de la démocratie.
C'est la loi de la démocratie.
Vous en avez fait la théorie et la pratique est à la disposition des Français.
Je ne suis pas tout à fait certain, Monsieur le Président, que si demain, alors même que les Français auraient majoritairement accepté ou repoussé quelque chose, une majorité d'autres pays puisse la leur imposer.
Nos institutions nationales sont entièrement respectées et parfaitement maintenues. Donc vous ne pouvez pas argumenter en ayant l'air de laisser penser que la France perd tout d'un coup les moyens de sa souveraineté et qu'elle va se soumettre à une domination étrangère. Croyez-vous que je puisse l'accepter plus que vous ?
Alors on entend au son qu'on est en public, dans un moment crucial, dans la vaste enceinte du grand amphi de la Sorbonne, mais à l'image on voit que se joue là une pièce de théâtre antique, comme il s'en joue souvent d'ailleurs à la Sorbonne.
C'est-à-dire que là encore, on a les communicants de Mitterrand ont choisi, ont fait le casting. C'est-à-dire qu'ils ont mis face à Mitterrand, à la fin de l'émission, Philippe Séguin, qui est un opposant respectueux, qui finalement intériorise cette position, qui est une position d'infériorité par rapport au monarque. En plus, il s'aperçoit bien que le dit monarque est malade. Il va se faire opérer pendant quelques jours plus tard.
On a ménagé des pauses publicitaires pour permettre au président de se faire soigner. Voilà.
Donc c'est un homme qui a un débat, qui a plus une conversation qu'un débat avec François Mitterrand. Mais avant Philippe Séguin, il y a eu le dialogue avec ce qu'on appelle les vrais gens, c'est-à-dire le panel habituel de Français, qui a été recruté par la Sofresse et qui a été sélectionné très très précisément par les équipes de communicants, et notamment par Jacques Pilon. C'est-à-dire que le but du jeu était de mettre face à Mitterrand, ce que la ligne qu'avait fixée Pilon, c'est « trouvez-moi des gens qui sont pour le non et qui sont sympathiques ». Parce que c'est à eux que Mitterrand doit parler, c'est à eux qu'il doit s'adresser dans cette émission, c'est eux qu'il doit convaincre, et il faut qu'ils soient des bons sparring partners par rapport à Mitterrand. Et c'est on lui met les adversaires qu'il connaît, qu'il veut, et auxquels il doit s'adresser pour être convaincant, dans une émission qui est totalement scénarisé.
Alors, le conseiller, Pilon, c'est celui qui regarde le public derrière une glace sans teint. C'est le cas ce soir-là. Il continue de conseiller Mitterrand jusqu'à la fin, notamment dans la communication sur son passé vichiste. Et le voilà, qui en même temps, alors ça c'est inouï, conseille Jacques Chirac. Alors à gauche, au moment de la présidentielle de 1995, on crie à la trahison, à la faute morale. Mais Jacques Chirac, ce n'est pas convenable, c'est un guignol.
Messieurs, dames.
Ah, monsieur Alexandre, je vous écoute.
Alors, monsieur Chirac, votre programme, vos promesses, là, si vous voulez tout tenir, va vous falloir le budget des États-Unis.
Non, c'est une question d'élan, de la reprise machin bidule. L'imagination, manger des pommes, voyez.
Répondez pas à côté. Pour la sécurité sociale, par exemple, comment que vous faites pour équilibrer?
C'est facile. On enlève le plafond, machin, puis avec le plancher, tout ça, on prend les malades bidules et puis zou, manger des pommes.
Non, mais comment que vous faites pour baisser les charges, augmenter les salaires, mettre le service militaire à 6 mois et baisser le chômage en même temps?
Mais j'en sais rien, moi, c'est le boulot de mon premier ministre que j'aurai, ça. Et puis voilà, c'est tout, allez, mangez des pommes.
Et les vieux, vous augmentez leur retraite et vous baissez les cotisations, ça va vous coûter 50 milliards, où vous allez les prendre?
Hein? Eh ben, on les trouvera, c'est une question d'imagination. Mangez des...
Mais arrêtez avec vos pommes, je vous demande où vous les prenez, vos 50 milliards.
Mais on verra, il sera toujours temps quand on y sera.
Les Guignols, c'est l'émission, la semaine des Guignols, c'est l'émission que ne loupait jamais Jacques Pilon quand il était le week-end dans son moulin de l'Essonne. Et non pas qu'il ait jamais fixé le programme des Guignols et les personnages, mais il trouvait qu'il résumait tellement bien ce qu'il préparait, ce qu'il faisait, que c'en était parfait. Que...
Mais Chirac, c'est pas un Guignol, c'est un émetteur pour Pilon. Un émetteur puissant. Peu importe le programme, mais c'est un émetteur.
C'est un émetteur puissant, c'est surtout l'homme de la situation pour lui. C'est-à-dire qu'il pense qu'après que Mitterrand, son mandat s'achève, que la gauche n'a aucune chance et que pour gagner, il faut un candidat de droite anti-bourgeois, comme il dit. Et donc, quel est celui qui est à la disposition? C'est Jacques Chirac, c'est lui qui va le voir, c'est lui qui commence à le conseiller dans le plus grand secret. Et il découvre un homme comme il dit, bouge tout le temps, mange comme un ogre et a une force de communication extrême dans la mise en scène de la trahison dont il est victime, de la solitude dont on le crédite, et avec lui il construit cette campagne de 95 et notamment autour de la fracture sociale où on retrouve les thèmes qu'il avait vu émerger au moment du référendum sur Maastricht. C'est cette dernière campagne de Jacques Pilon qui est une campagne totalement secrète qui n'a été connue que très 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 tardivement, dans laquelle il a joué un rôle central, où il a pour la dernière fois de sa vie remis en œuvre tout ce qu'il savait faire, tout son savoir-faire.
Mais
tout
dernière ce campagne, dernière fois de sa vie, oui, il va mourir précocement en 1998 avec à l'enterrement d'un côté le clan Mitterrand, de l'autre côté le clan Chirac. On va vous dire quand même que vous êtes de chroniqueur politique, c'est votre métier, François Bazin, devenu un amoraliste. Il a creusé le vide moral.
Je décris un homme qui, en effet, était dans l'amoralisme le plus complet. Il considérait qu'il faisait un métier, que ce métier était une profession et qu'il avait des clients. Et que les questions de la communication n'étaient pas des questions gauche-droite, mais des questions qui... Ce qui l'intéressait, c'était le président. Ce n'était pas que savoir le président soit de gauche ou de droite. C'était là à la fois ce qui le rend très intéressant et qui donne parfois froid froid dans le dos, en effet.
Et puis, il l'avouait lui-même, les temps vont changer. Ma mission serait beaucoup plus complexe aujourd'hui. Autant il n'y a plus seulement 3 grandes chaînes de télévision, mais tant et tant de réseaux sociaux. Pessac, festival du film d'histoire consacré à la conquête du pouvoir, un sujet qui vous intéresse, François Bazin, qui rééditait Le Sorcier de l'Élysée, collection Tempus chez Perrin. Il est 14h, vous écoutez France Inter.